Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Espado Club. Je suis Zélie et pour ce deuxième épisode, je suis en compagnie d'Alexandre, Louise, Ikatame, Nora, Moon, Elisa, Emma, Didier et Evans. Au sommaire de cette émission, vous retrouverez une interview sur le thème de l'éducation sexuelle et du consentement. La chronique d'Evans, celle d'Emma, sans oublier notre sélection musicale. On commence donc cette émission par une rencontre avec Madame Delorraine, conseillère familiale et conjugale au centre de planification d'Arras. Elle est amenée à se rendre dans les établissements scolaires pour parler d'éducation à la sexualité, autour de la vie affective et de la vie sexuelle. On écoute son interview.
Comment parler de sexualité avec les jeunes ?
Comment parler de sexualité avec les jeunes ? D'une manière très naturelle, je pense que c'est important, qu'on ne sente pas qu'il y ait un tabou important. C'est-à-dire qu'en fonction du questionnement de la personne, eh ben pouvoir lui faire sentir qu'il a raison de poser cette question-là et qu'on va chercher à y répondre ensemble. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément la vérité absolue sur l'éducation à la sexualité, mais là où est sa préoccupation, qu'on va essayer de trouver les réponses ensemble. C'est-à-dire que je pense que la dynamique, elle est importante qu'elle vienne de lui et de la personne à qui il pose la question.
Définir la sexualité, parler des maladies, du physique de manière scientifique, des relations, une des normes et si elle existe.
Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir exactement dans votre question ? Parce que je trouve qu'il y a plusieurs choses que vous évoquez.
En premier lieu, parler des maladies.
Alors ça, c'est une information, je trouve, qui est essentielle à donner par rapport à la santé, comme prévention autour des réflexes à avoir quand on aborde la vie sexuelle, c'est-à-dire la contraception et le préservatif. La contraception pour éviter la grossesse, le préservatif, même s'il est considéré comme un moyen de contraception, l'envisager obligatoirement, même s'il y a une contraception, pour éviter les IST. Et après, dans votre question, vous évoquez d'autres choses ?
Du physique de manière scientifique.
Alors, c'est-à-dire la connaissance de son corps d'un point de vue anatomique, c'est ça que vous vouliez dire ? Je pense que c'est vrai que c'est important de se connaître. Parce que si on se connaît, on va mieux pouvoir réagir en interaction avec l'autre. C'est-à-dire si je connais mon corps, si je connais le corps de l'autre ou si j'apprends à le connaître, je vais avancer d'une manière plus sereine vers ma sexualité. Et après, je vais pouvoir en effet anticiper par rapport à une grossesse, par rapport à des ressentis que je pourrais avoir dans mon corps, à se dire, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, est-ce que je dois consulter ou pas consulter.
Ok.
Et vous évoquez aussi quelque chose qui est une troisième chose.
Des relations.
Les relations.
Les relations amoureuses, je crois.
Oui.
C'est-à-dire, est-ce qu'il faut être amoureux pour avoir des relations sexuelles ? C'est ça le sens de votre question ?
Oui.
Alors, dans l'idéal, oui. C'est-à-dire, je pense que quand on est amoureux, on construit autre chose que quand on ne l'est pas. Mais chacun est libre de vivre ce qu'il a envie avec son corps, tout en se respectant et en respectant l'autre. C'est-à-dire, je crois que le secret de toute sexualité, c'est d'être dans le respect, qu'on soit amoureux ou pas amoureux. Mais on ne construit pas la même chose quand on est amoureux et que quand on n'est pas amoureux.
Oui. Et pour finir, une des normes, et si elle existe ?
Est-ce que la norme existe ? Je ne crois pas en la norme. Je crois que chacun peut se l'inventer, sa norme, c'est-à-dire son bien-être, pour moi. C'est vrai que la société va forcément avoir un regard sur la norme, entre guillemets, mais je ne crois pas qu'il faille s'arrêter à la norme. Chacun va vivre ce qu'il a à vivre au moment où il est, dans sa vie, dans sa sexualité, ses expériences avant, et que la norme, elle n'existe pas. Je crois que ce qui est important, c'est de se protéger au niveau de sa santé, de se respecter, et d'avancer en confiance avec soi-même et avec l'autre.
D'accord, merci.
Est-ce de la sensibilisation ou de la prévention ?
Alors, je pense que quand je vais dans les établissements scolaires, la durée d'une intervention est d'une heure. Sur une heure, on a plein de messages à faire passer qui sont de la prévention.
Oui.
On a envie de prévenir pour qu'il y ait les bons réflexes quand les jeunes sont... arrivent à ce moment-là de leur vie, c'est-à-dire qu'ils vont envisager la sexualité, qu'ils aient les bons réflexes. Après, je mettrai le mot sensibilisation quand il est possible d'avoir un dialogue dans nos interventions, c'est-à-dire à travers des questions qui vont être posées, qu'on puisse échanger en respectant en effet ce qu'est la personne à ce moment-là, Parce que quand on donne une information, tout le monde n'est pas au même niveau. C'est ça qui est compliqué, je trouve. C'est qu'on pourrait déposer des choses qui sont de l'ordre de la sensibilisation en fonction de là où en est la personne. Mais vu qu'on s'adresse à une classe, c'est compliqué d'être dans cette sensibilisation. C'est-à-dire parler de la sexualité avec des mots qui vont ouvrir et qui ne sont pas seulement des messages de prévention, attention, mais qui vont ouvrir au bien-être de la sexualité. Et ce n'est pas toujours facile à faire par rapport au fait que ce n'est pas assez intime dans une classe pour pouvoir être dans la sensibilisation, même si on va essayer de délivrer des messages.
On a entendu parler du métier de sexologue. En quoi ça consiste et comment on devient sexologue, la formation et pourquoi ?
Sexologue, c'est un titre qui est réservé aux médecins. C'est-à-dire que c'est seulement des médecins qui peuvent avoir ce titre de sexologue et ils ont fait un cursus universitaire de 3 ans souvent. C'est 3 ans, oui, c'est 3 ans. Et donc, ils vont avoir un côté d'échange dans la parole, mais aussi tout un côté médical possible, prescrire des médicaments. Après, il y a d'autres professionnels qui se forment en sexologie, mais qui vont être des thérapeutes. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas utiliser le terme sexologue. Et eux, ils ne vont pas pouvoir forcément, ça dépend, si c'est des kinés, ils peuvent toucher pour certains examens. Mais le terme vraiment sexologue, c'est réservé aux médecins. Et pour les autres, ils sont praticiens en sexologie, thérapeutes en sexologie. Et il y avait autre chose dans votre question, c'était
Oui, pourquoi devenir sexologue ?
Ben pour pouvoir aider les gens dans leur sexualité. C'est-à-dire que la sexualité, c'est aussi un monde mystérieux où il y a des blocages, des complications, des histoires parfois douloureuses et que cette profession va permettre de mettre des mots, d'aider pour que les gens aient une sexualité épanouie, ce qui est l'enjeu de la sexualité, l'épanouissement.
L'éducation sexuelle doit être obligatoire.
Est-ce que l'éducation sexuelle doit être obligatoire ? En tout cas, elle est préconisée dans les programmes de l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'il doit y avoir 3 séances par niveau, de la maternelle jusqu'à la terminale. On est loin du compte. Il n'y a pas cette volonté, en tout cas à l'heure actuelle, même si on en parle beaucoup, de mettre ça en place. Je pense que l'éducation à la sexualité, elle va amener des réponses et que c'est bien qu'elle soit en tout cas proposée, si ce n'est obligatoire. Il y a des gens qui ne sont pas du tout à l'aise pour parler de sexualité. Je suis parfois étonnée de jeunes qui ont surtout envie de ne pas être là quand on fait ces interventions. Et je pense qu'il peut y avoir une première séance où on donne de l'information et une deuxième séance pour ceux qui veulent, pour pouvoir échanger plus loin, peut-être pour être dans une sensibilisation justement sur certains paramètres de la sexualité.
Est-ce qu'il faut séparer garçons et filles ou la sensibilisation est mixte ?
Vaste question. Je pense qu'il faudrait les deux. Parce que je pense qu'en fonction de l'âge qu'on a, on ne va pas se poser les questions de la même manière au même moment, si on est fille ou garçon. Mais après, je pense que ça doit être aussi une question de le sentir. J'ai envie que ça soit un groupe mixte ou j'ai pas envie. Il faudrait que ça soit possible. Mais ça veut dire qu'il faut avoir beaucoup de disponibilité pour pouvoir organiser ça.
Comment dépasser le stade de la gêne ?
La gêne de quoi ?
Parce que par moment, quand on parle de sexualité avec les professeurs, tout ça, ils sont vite gênés. Donc comment dépasser cette gêne-là ?
Alors, je pense que c'est quand on a le sentiment de rentrer dans le domaine de l'intime. C'est-à-dire, si on donne une information, est-ce qu'on parle de soi ou est-ce qu'on donne une information d'une manière générale ? Et est-ce que la personne qui pose la question, elle a envie d'une information générale ou de quelque chose de plus précis ? Je pense que c'est une question de moment pour pouvoir lever la gêne. Et la personne à qui vous vous adressez ? Il y a des personnes qui vont être plus à l'aise que d'autres pour parler de sexualité. Et que la gêne, elle va aussi intervenir peut-être pour la personne en fonction de sa propre histoire. Et que voilà, on n'est pas tous égaux pour pouvoir parler de sexualité en fonction de ce qu'on a vécu, en fonction de l'éducation qu'on a reçue.
Comment préserver l'anonymat ?
C'est quoi l'anonymat pour vous ? C'est dans quel cadre l'anonymat ?
Par exemple, pouvoir poser des questions sans qu'on sache qui a posé cette question ?
Ben, via des questions sur un papier qui sont données à l'intervenant et vous ne les posez pas d'une manière directe. Elles ont été posées en amont et puis on les donne à l'intervenant.
Est-ce qu'on parle de contraception masculine ?
La contraception masculine n'est pas encore au point, mais moi, à mon niveau, j'interroge les hommes sur est-ce qu'ils seront prêts quand cette contraception masculine sera au point, s'ils sont prêts à la prendre.
Est-ce qu'on parle des films pornographiques et des clichés liés au sexe ?
On en parle forcément parce qu'on sait que ça fait beaucoup de ravages et donc on veut faire une vraie prévention sur l'impact de la pornographie dans la sexualité. On sait qu'il y a un jeune sur trois de moins de 12 ans qui a déjà été exposé à la pornographie. Et on sait qu'il va y avoir un vrai impact sur la sexualité de cette personne qui aura beaucoup regardé la pornographie. Donc on essaye vraiment d'expliquer l'impact que ça va avoir sur le cerveau, le fait de regarder de la pornographie et comment ça vous fait passer à côté de votre sexualité. Donc on essaye vraiment d'envoyer des messages précis. Précis, c'est peut-être pas le bon mot. Mais enfin, en tout cas, l'impact que va avoir la pornographie sur votre sexualité si vous en regardez d'une manière inconsidérée.
Quel est l'âge de la première fois en France et peut-on la dédramatiser ?
L'âge de la première fois en France est une moyenne, c'est 17 ans. La dédramatiser, ça veut dire quoi dédramatiser la première fois ?
Si, selon vous, ça peut paraître trop jeune. Et si elle devait être, si l'âge devrait être plus tard.
Je pense que c'est toujours une histoire de moment, de rencontre, qui appartient à la personne. On ne peut pas juger ce passage, qui est un passage important dans sa vie, et de dire qu'il faut que ça soit plus tard, plus tôt. Ça appartient à l'histoire de chacun. Ce qui est important, c'est que la personne, elle ait senti qu'elle avait vraiment envie de le faire, qu'elle était respectée et qu'elle respectait aussi son partenaire. Enfin, c'est quelque chose qui doit être de l'ordre de la magie, je pense. La première fois, ça doit être quelque chose qu'on ne va jamais regretter. Donc l'âge, j'ai envie de dire, ce n'est pas ça qui est important. C'est vraiment le moment qu'on vit et qu'on se dise « c'est un moment qui est important pour moi et je ne le regretterai pas
». Comment on peut savoir que c'est le bon moment ?
Qu'on s'en prie.
Ça, c'est une question qu'on a souvent. Comment on sait qu'on est prêt ? Comment on sait qu'on est prêt ? Comment savoir si c'est le bon moment ? Ben, j'ai envie de dire, c'est l'histoire d'un feeling avec soi et l'autre. Et que je pense que la question temps joue, c'est-à-dire qu'on a pris quand même le temps de se connaître. Alors, pareil, le paramètre du temps, il est propre à chacun. C'est-à-dire, il y en a pour qui 3 mois, c'est long, il y en a pour qui c'est 6 mois, etc. Mais c'est vraiment une question de se dire, on a eu pris le temps de se connaître, de communiquer, d'anticiper, c'est-à-dire qu'on a parlé du fait qu'il y aurait cette première fois et qu'on a fait tout ce qu'il fallait d'un point de vue protection, c'est-à-dire la contraception et le préservatif, et qu'on a senti qu'il y avait quelque chose qui était fort en nous pour pouvoir passer ce pas, aussi bien dans la tête, dans le cœur que dans le corps. C'est-à-dire que c'est une combinaison qui fait que l'élan, il est là et qu'on ne peut pas l'arrêter. Donc on est prêt.
De nos jours, on est de plus en plus jeunes, confrontés dans les cours de récré au sexe. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce qu'on est parfois trop jeune et que du coup, en voulant s'enseigner, on tombe justement sur les films pornographiques ? Du coup, est-ce que c'est une bonne chose d'être jeune, confronté à ça ?
Si vous êtes jeune, confronté à la pornographie, non, ce n'est pas une bonne chose. Et c'est pour ça que vous m'aviez posé une question au tout début en me demandant comment on parle de l'éducation à la sexualité. Et je vous disais, il faut que ça soit quelque chose de naturel. Je pense qu'on doit être plusieurs personnes à vous parler de sexualité, mais d'une manière adaptée au moment où vous êtes et que la personne qui est face à vous soit aussi adaptée. C'est-à-dire, si c'est vos parents, qu'ils vous donnent des messages sur le fait de s'aimer, le fait de vouloir faire l'amour, enfin... Je me dis, ça dépend des familles, mais je pense que si plusieurs personnes vous parlent de la sexualité de manière adaptée au bon moment, là où vous en êtes, ça vous prévient. C'est-à-dire que si vous tombez sur la pornographie, et j'espère qu'on vous aura fait aussi des recommandations par rapport à ces films-là, c'est que vous sentiez armé et que ça ne soit pas quelque chose qui vous tourne dessus comme si c'était quelque chose d'inconnu et qui vous dépassait. Voilà, la sexualité est quelque chose de naturel, qu'on doit délivrer des messages adaptés à chaque âge et pour vous permettre de ne pas être surpris s'il se passait ça et que vous sachiez détourner le regard de la pornographie parce que vous comprenez que ce n'est pas la sexualité que vous allez vivre ou qu'on a envie de vous faire passer comme message.
Selon vous, est-ce qu'il y a assez de cours d'éducation sexuelle au collège et au lycée ?
Le mot « cours » me gêne un peu. C'est-à-dire qu'on vous prépare, qu'on vous donne des informations sur l'anatomie, la contraception, etc., d'une manière générale, oui. Mais après, je vous dis ce que j'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est que chacun devrait avoir la possibilité de pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui parler des questions qu'il se pose sur la sexualité. Par exemple, j'avais déjà proposé dans un lycée de faire des ateliers sur le désir. Mais vous voyez, ce mot « désir » faisait peur à la direction de l'établissement. C'est-à-dire, ils disaient, oh là là, de quoi elle va nous parler? Mais je voulais juste parler, moi, de l'élan de vie qu'on a à travers la sexualité, qui est quelque chose de tout à fait normal, et que ça nous permet, si on met des mots sur le mot désir, qu'est-ce que c'est que le désir, qu'est-ce que je désire exactement, eh bien, ça nous permet d'avancer en étant soi, au moment où on est confronté à ça, à ce désir qu'on ressent en nous, eh bien, pouvoir le comprendre. Parce que je pense que la sexualité, même si elle a quelque chose de naturel et de spontané, c'est important aussi de comprendre ce que l'on va vivre et ce qui se passe en nous. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut adapter les moments où vous avez besoin d'informations. Et pas sous forme de cours, mais sous forme d'échanges avec des adultes qui sont formés. Alors, pas parce que vous allez trouver plein de réponses sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'une vitre, enfin un écran, ça modifie la relation qu'on peut avoir dans l'échange. Et que je pense quand on, si dans les écoles, il y avait des ateliers, par exemple, où on pouvait échanger sur la sexualité d'une manière libre, où vous pouvez poser vos questions, ce serait peut-être quelque chose qui vous aiderait.
Comment réussir à en parler, enfin, parce que des fois, nos parents, on ne peut pas en parler comme ça. Et même si on va aller voir quelqu'un pour pouvoir en parler, comment on peut faire, enfin, je sais pas.
Alors, là où je travaille, au centre de planification, je reçois parfois des ados qui viennent poser des questions. Alors, ils ne sont pas toujours à l'aise en disant, voilà, je me pose des questions. Alors oui, c'est quoi les questions que vous posez? Bon, alors ça peut être savoir si je suis prêt, je ne l'ai jamais fait, j'ai peur, est-ce qu'il m'aime vraiment, est-ce qu'elle m'aime vraiment? Enfin, plein de questions comme ça. Je me souviens de jeunes qui avaient 18 ans, qui étaient venus en disant, on ne l'a jamais fait, est-ce que ce n'est pas trop tard? Vous voyez, c'est vrai, vous parliez de la norme de la société, c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'on devrait avoir fait ça, ça, ça. Et voilà, il y a chacun son histoire. Mais je pense que c'est important de trouver la bonne personne qui va vous permettre d'être en confiance pour pouvoir poser les questions qui vous travaillent à ce moment-là. Alors, la bonne personne, on ne la trouve pas forcément, mais je crois qu'il y a des professionnels qui existent. Après, vous avez peut-être des gens avec qui vous êtes plus proche. Parfois, c'est une marraine, parfois, c'est un oncle, une tante, avec qui on sent qu'on peut échanger. J'ai envie de dire, la sexualité, c'est une question de ressenti. Et bien, la personne à qui vous pouvez poser vos questions, c'est pareil, c'est une question de ressenti. Tiens, je peux poser cette question-là à cette personne, je suis suffisamment en confiance pour lui faire part de mes inquiétudes, de mes interrogations autour de la sexualité.
D'accord. Et comment vous vous êtes senti reçu, on va dire, dans les établissements où vous êtes allé?
On est plutôt bien reçu. Globalement, on travaille avec les infirmières ou les CPE. Et ils sont très demandeurs qu'on vienne. C'est-à-dire que la sexualité, surtout avec l'impact de la pornographie, ça pose question dans les établissements. Et donc, ils sont plutôt contents qu'on vienne donner un message de prévention, de sensibilisation autour de la sexualité. Donc, on est plutôt bien accueillis.
Du coup, quel est l'impact de la pornographie?
L'impact de la pornographie. Je dirais que l'impact, c'est d'avoir une sexualité qui ressemble d'une manière inconsciente à ce que vous voyez dans les films. C'est-à-dire une relation qui est d'objet à objet, qui n'est pas une relation qui est construite dans le respect mutuel, qui n'est pas construite dans le partage du plaisir, qui n'évoque pas parfois le consentement. C'est-à-dire qu'on va passer à côté des essentiels de la sexualité qui sont vraiment pour moi le respect, le fait de faire attention à l'autre, de suivre ce que vit l'autre dans son corps, et puis de pouvoir atteindre un plaisir ensemble, ou séparément, mais en tout cas où on fait attention à ce que vit l'autre. Et ce n'est pas du tout ce que montre la pornographie. Donc l'impact de la pornographie, c'est de développer une sexualité où on ne sait pas faire attention à l'autre. Et croyez-moi, c'est important dans la sexualité d'être dans une communication, une complicité, et ce n'est pas ce que montre la pornographie.
On fait beaucoup de prévention sur tout ce qui est les rapports sexuels hétéros, mais on parle rarement des rapports sexuels homosexuels, etc. Et est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus?
Alors, c'est vrai que quand on fait de la prévention, surtout à l'heure actuelle, on essaye d'avoir un discours qui n'est pas trop hétérocentré. J'avoue, j'ai l'âge que j'ai été formée comme j'ai été formée, mais même si je peux mesurer parfois que mon discours et autour de l'hétérosexualité, je suis très vigilante de parler aussi de l'homosexualité ou d'autres formes de sexualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, surtout chez vous les jeunes, il y a tout un vocabulaire autour de la sexualité. Donc on essaye de bien l'assimiler pour pouvoir être toujours dans un échange face à vous et pas avoir l'air d'être dépassé. Mais je trouve quand même que dans les messages qu'on passe, on parle de l'homosexualité au même niveau que l'hétérosexualité. Enfin, aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui est à égalité quand on envoie un message autour de l'homosexualité, de l'hétérosexualité, par rapport à la prévention et puis par rapport au fait que chacun a le droit de vivre ce qu'il a envie de vivre.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à vous aussi.
C'était Madame de Lorraine, conseillère familiale et conjugale au centre de planification d'Arras. Après cette interview, nous vous proposons une petite pause musicale avec Stromae. On écoute tous les mêmes.
Tous les hommes et tous les mêmes. Macho mais le monde de ma vie est infidèle. Si prévisible, non je ne suis pas certaine que tu le mérites, avez de la chance que vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mat une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre ce serait pire. Quoi toi aussi tu veux finir maintenant. C'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi tu pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous. Prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Mais pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle. Ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternel. Moche ou belle,
c'est jamais bon.
Bête ou belle,
c'est jamais bon.
Belle ou moi,
c'est jamais bon.
Moi ou elle,
c'est jamais bon.
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
On va maintenant écouter Troisième Sexe, interprété par Indochine et Christine and the Queens.
J'ai pas envie de le voir nu. Et j'aime cette fille aux cheveux longs et ce garçon qui pourrait dire non. Cheveux d'or qui oublient leur vertu, mais c'est pas vrai qu'ils ont l'air d'un conquistador asexué une fois dévêtu. Qui croire quand on les voit comme ça, excitant toutes les petites filles? Pourquoi on n'y croit plus comme ça, isolé dans un corps presqu'île? J'ai pas envie de la voir nue, envie de la voir nue. Et j'aime cette fille aux cheveux longs et ce garçon qui pourrait dire non. Et on se prend la main. Pour les filles sans contrefaçon, maquillée comme ma fiancée. Le grand choc pour les plus vicieux, c'est bientôt la chasse aux sorcières. Ambigu jusqu'au fond des yeux, le retour de Jupiter.
De savoir si Evans a consenti à écrire sa chronique. Alors Evans, t'as fait tes devoirs ?
Oui madame, j'ai fait mes devoirs. Alors, voici ma chronique. Consentir, c'est ressentir ensemble. C'est un grand oui, un oui à la vie, un oui à l'autre, un oui à soi. On consent à quelque chose. Par exemple, je consens à t'épouser, quoique ce consentement tend à se perdre de nos jours. Je conçois que ce que je ressens pour toi n'est peut-être pas réciproque. Bon, c'est pas grave, j'en épouserai un ou une autre qui voudra bien consentir à. Dans le consentement, il y a la promesse de découverte, une terra incognita où tout est à découvrir, à explorer, des désirs qui ne demandent qu'à s'exprimer, des fantasmes inavoués, des sensations, des émotions, de l'intensité, des mouvements telluriques, des tremblements de terre, des séismes, des volcans en éruption, bref, du pulsionnel, de la vie brute, mais pas brutale. Quoique. Consentir, se ressentir ensemble. Mais avec qui? Quel est cet autre à qui je dis oui? Ressent-il ce que je ressens? Ressent-il mes attentes, mes envies, mes désirs, mon impatience, ma curiosité, mon appétit insatiable, mes doutes, mon appréhension, mes peurs, mes hésitations? Mon corps qui dit oui, ma tête qui dit non, à moins que ce ne soit l'inverse. J'ai dit oui, mais est-ce que je peux dire non maintenant? Que je sens chez lui, chez elle, cette même envie, ce même désir qui était là au commencement. Bien sûr que je peux dire non, après avoir dit oui. Le consentement n'est jamais définitif. Il n'impose rien. Il est juste un oui pour un instant, pour un moment, qu'on renouvellera peut-être, peut-être pas. C'est un oui éphémère, comme les battements d'ailes d'un papillon du même nom, dont le vol incertain peut s'arrêter à tout moment. Il y a bien des façons de dire non, et elles sont toutes entendables, mais pas forcément entendues. Entendons-nous bien. Non veut dire non, quelle que soit l'expression ou la forme que ce nom prend. Un geste, un mot, un regard, n'importe quel signe qui doit encourager l'autre à questionner. Tu es sûr que c'est ce que tu veux ? Ou si tu ne veux pas, ce n'est pas grave. Hein. Ou ça peut attendre, rien ne presse. Ou encore, ok, n'hésite pas à me dire ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Consentir, c'est ressentir ensemble. Et si cet autre ne vous sent pas, mieux vaut s'en éloigner. De toute façon, il ou elle, plus souvent il qu'elle d'ailleurs, ne vous voit pas, ne vous entend pas, ne vous sent pas, n'est pas touché par vous, car il ou elle, plus souvent il que elle, ne voit, n'entend, ne sent, n'est touché que par lui-même. C'est un monstre d'égoïsme, une boursouflure énorme de l'ego, une pulsion autocentrée et destructrice, dont l'appétit fait fi de l'autre, qui ne voit plus que comme un objet d'assouvissement, d'asservissement, pour son propre plaisir. Un non-être aux allures de bête brutale et féroce. C'est ce genre de monstre, quoique plus raffiné, qui a fait irruption dans la vie de Vanessa Springora. Un prédateur en col blanc, encensé par tout le gratin littéraire de l'époque, qui va bouleverser pour toujours sa vie. Elle a alors 13 ans. Et là, je la cite, « Un père aux abonnés absents, qui a laissé dans son existence un vide insondable, un goût prononcé pour la lecture, une certaine précocité sexuelle. Et surtout, un immense besoin d'être regardée. Toutes les conditions sont maintenant réunies. Elle va devenir la proie d'un redoutable manipulateur, un pervers narcissique, comme on dit de nos jours, qui, par un discours bien rodé, elle n'est qu'une adolescente, de plus sur son tableau de chasse, et un soutien indéfectible d'artistes et d'intellectuels de l'époque, il se sentira jusqu'au bout tout puissant dans son costume de pédophile. Cet écrivain connu et reconnu dont les livres sulfureux n'inquiètent que peu les gens dans le milieu littéraire, il y décrit ses conquêtes de jeunes adolescents et passe pour le bon samaritain œuvrant à éduquer sexuellement les jeunes par son expérience. En lisant le livre de Vanessa Springora, intitulé justement « Le consentement », j'ai eu plusieurs fois un sentiment de dégoût, de nausée, d'injustice face à cette impunité dont je n'arrivais pas à comprendre le sens. Pourquoi G, c'est l'initiale qu'elle a choisie pour nommer ce criminel, a-t-il fait pour échapper à la justice des hommes ? Alors Vanessa Springora en donne une explication étonnante, page 193. « J'ai longtemps réfléchi à cette brèche incompréhensible dans un espace juridique pourtant très balisé, et je n'y vois qu'une seule explication. Si les relations sexuelles entre un adulte et un mineur de moins de 15 ans sont illégales, pourquoi cette tolérance quand elles sont le fait du représentant d'une élite ? Photographe, écrivain, cinéaste, peintre. Il faut croire que l'artiste appartient à une caste à part, qu'il est un être aux vertus supérieures auquel nous offrons un mandat de toute puissance, sans autre contrepartie que la production d'une œuvre originale et subversive, une sorte d'aristocrate détenteur de privilèges exceptionnels devant lequel notre jugement, dans un état de sidération aveugle, doit s'effacer. » Voilà, c'est le regard crédule que nous portons sur le soi-disant être exceptionnel que serait l'artiste qui nous rendrait aveugles à la souffrance des plus vulnérables. Rappelons aussi que, dans le contexte post-68ard, la liberté sexuelle, le droit de jouir revendiqué par toute une génération de frustrés, a permis à certains de s'arranger avec la morale, sans que cela ne nous inquiète du point de vue du droit. Aussi doit-on rappeler ce que fait à la fin de son livre Vanessa Springora, que bien que la littérature se place au-dessus de tout jugement moral, la sexualité d'un adulte avec une personne n'ayant pas atteint la majorité sexuelle est un acte répréhensible puni par la loi. C'est simple, mais tellement compliqué à appliquer. Les raisons en sont multiples. L'une d'elles, c'est étrangement la victime qui l'a produit involontairement. Je veux parler de la culpabilité, cette petite voix intérieure qui pousse les victimes à retourner contre elles l'agression qu'elles ont subie. On n'est jamais coupable d'avoir cru être aimé, de ne pas avoir pu dire non. On n'a juste eu personne pour nous protéger à ce moment-là, affirme Vanessa Springora. On a cru, dit-elle, qu'il nous faisait exister, alors qu'il se servait de nous. Consentir, c'est ressentir ensemble. Alors pour terminer, j'aimerais unir ma voix avec toutes celles qui en sont privées. Leur dire que je ne pourrai jamais ressentir ce par quoi elles sont passées, mais qu'elles ne sont pas seules. Que leur combat est le mien et le nôtre, celui de tous, et qu'ils méritent bien une petite chronique, même si ça paraît bien dérisoire. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous laisse la référence du livre « Le consentement » de Vanessa Springora aux éditions Grasset.
Merci Evans pour ta chronique et merci à tous de nous avoir écoutés. Notre émission se termine bientôt, mais pas de panique, on se retrouve bientôt pour un troisième épisode. Au revoir.